Lee, Marina et June allèrent passer le nouvel an chez les Morenchild. Je suis donc resté seul, livré à moi-même, mais quand Sadie m'a appelé pour me demander si je voulais l'emmener au bal de réveillon du nouvel an à la grange de Jody, j'ai hésité. « Je sais ce que tu penses, » me dit-elle, « mais ce sera mieux que l'année dernière. Nous allons faire mieux, George. » Nous y étions donc, dès 20h, dansant une fois de plus sous des filets remplis de ballons. Cette année, l'orchestre s'appelait les Dominoes. Ils étaient dotés d'une section cuivre de 4 musiciens, au lieu des guitares surf à la Dick Dale, qui avaient donné le la du bal de l'an passé. Mais eux aussi déménageaient. Nous avons retrouvé les mêmes saladiers de limonade rose et soda au gingembre, l'un sans alcool, l'autre alcoolisé. Les mêmes fumeurs étaient regroupés dans l'air froid sous l'escalier de secours. Mais c'était effectivement mieux que l'an dernier. On percevait un immense sentiment de soulagement et de bonheur. Le monde était passé sous une ombre nucléaire en octobre, mais il en avait réchappé. J'ai surpris plusieurs commentaires approbateurs sur la façon dont Kennedy avait fait reculer le grand méchant ours russe. Vers 21h, nous dansions un slow, quand soudain Sadie a poussé un cri en échappant à mes bras. J'étais sûr qu'elle avait repéré John Clayton et mon cœur a fait un bond dans ma gorge. Mais non, c'était un cri de pur bonheur. Les nouveaux arrivants étaient Mike Coslow, absurdement beau en manteau de tweed, et Bobby Jill Allnut. Sadie a couru vers eux et trébuché sur le pied de quelqu'un. Mike l'a rattrapé et fait pivoter vers lui. Bobby Jill m'a adressé un petit signe timide de la main. J'ai serré la main de Mike et posé une bise sur la joue de Bobby Jill. Sa cicatrice était maintenant une ligne rose pâle. D'après le docteur, on ne verra plus rien d'ici l'été prochain, expliqua-t-elle. Il dit que je suis sa patiente qui cicatrise le plus vite. Grâce à vous.
J'ai décroché un rôle dans Mort d'un commis voyageur, monsieur A, m'annonça Mike. Je joue Biff.
Profil type, ai-je commenté.
Méfiez-vous des entarteurs, ajouta-t-il.
Plus tard, lors d'une pause, je le vis conspirer avec le chanteur du groupe et compris sans peine ce qui se tramait. Lorsqu'ils remontèrent sur scène, le chanteur annonça
« J'ai une demande spéciale. Avons-nous un George Amberson et une Sadie Dunhill dans la salle ? George et Sadie ? Venez nous rejoindre, George et Sadie. Levez vos fesses et tricotez des gambettes. »
Nous nous sommes dirigés vers la scène sous une tempête d'applaudissements. Sadie, toute rougissante, riait. Elle agita son poing en direction de Mike. Le garçon sourit. L'enfance était en train de quitter son visage. L'homme prenait le relais. Encore timidement, mais sûrement. Le chanteur compta, et la section cuivre entama cette ouverture chaloupée que j'entends encore dans mes rêves. J'étendus mes deux mains vers elle. Elle a secoué la tête tout en commençant à balancer légèrement ses hanches.
« Allez-y, Miss Sadie !»
cria Bobby Jill.
« Ouais, faites la chose !»
La foule entonna
« Danse, danse, danse !»
Sadie a cédé et m'a pris les mains. Et nous avons dansé. À minuit, le groupe a joué « Auld Lang Syne » dans un arrangement différent de celui de l'an dernier. Mais c'était toujours la même chanson empreinte de douce nostalgie et les ballons se sont déversés sur nos têtes. Tout autour de nous, les couples s'étreignaient et s'embrassaient. Nous avons fait de même.
« Bonne année, Joe !»
Elle s'est reculée, sourcils froncés. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je venais d'avoir une vision soudaine du Book School Depository. Un vilain carré de briques avec des fenêtres qui ressemblaient à des yeux. C'était l'année où il deviendrait une icône américaine. Non, il ne le deviendra pas.
Je te laisserai jamais arriver jusque-là, Ali. Tu monteras jamais jusqu'à cette fenêtre du cinquième étage. Tu as ma promesse. George ? Un ange est passé, je suppose. Bonne année.
Je me suis penché pour l'embrasser, mais elle m'a retenu un instant.
C'est dans pas longtemps, n'est-ce pas ? Ce que tu es venu faire ?
Oui, je lui ai dit.
Mais c'est pas pour ce soir. Ce soir est à nous. Alors embrasse-moi, ma pépette, et danse avec moi.
De fin 1962 à début 1963, j'ai vécu deux vies. La bonne à Jody et au Candlewood de Kylene. L'autre à Dallas. Lee et Marina s'étaient remis ensemble. Leur premier pied-à-terre à Dallas fut un taudis à deux pas de West Neely. Morenchild les aida à emménager. George Bowie demeurait invisible, de même que les autres émigrés russes. Lee les avait fait fuir.
« Il le haïssait !» avait écrit Al dans ses notes.
Et au-dessous,
c'était ce qu'il voulait.
L'immeuble de briques rouges délabrées du 604 Elbeuf Street avait été divisé en quatre ou cinq appartements bondés de pauvres gens qui bossaient dur, buvaient sec et produisaient des hordes de gosses morveux et tapageurs. En fait, l'ancienne crèche des Oswald à Fort Worth paraissait sans sas en comparaison. Je n'avais pas besoin d'assistance électronique pour contrôler la détérioration continue de leur ménage. Même lorsque le temps se mit au froid, Marina continua à porter des shorts, comme pour narguer Lee avec ses ecchymoses. Et avec son sex appeal, bien sûr. June était généralement assise entre eux dans sa poussette. Elle ne pleurait plus trop pendant leurs engueulades, se contentant de regarder en suçant son pouce ou une tétine. Un jour de novembre 1962, alors que je revenais de la bibliothèque, j'ai aperçu Lee et Marina, à l'angle de West Neely et Elsbeth, s'invectivant violemment. Plusieurs personnes, surtout des femmes à cette heure de la journée, étaient sorties sur les marches de leur porche pour regarder. Oubliée dans sa poussette, enveloppée dans une couverture rose duveteuse, June se taisait. Ils se disputaient en russe. Mais leur dernière pomme de discorde était assez clairement identifiable au bout du doigt accusateur de Lee. Marina portait une jupe droite noire. Je ne sais pas si on appelait déjà ça des jupes crayons à l'époque. Et la fermeture à glissière sur sa hanche gauche était à moitié descendue. Elle avait dû se prendre dans le tissu. Mais à écouter Oswald délirer, on aurait pu croire que son épouse faisait le trottoir. De la main, Marina ramena ses cheveux en arrière, montra June du doigt, puis la maison qu'ils habitaient désormais, avec ses gouttières cassées dégoulinantes d'eau noire, ses détritus et ses canettes de bière sur la pelouse chauve, et lui cria en anglais.
« Tu comptes dire mensonge et amener femme et bébé dans cette porcherie ?»
Lee rougit jusqu'à la racine des cheveux et referma ses bras sur sa maigre poitrine. Comme pour contenir ses mains et les empêcher de faire des dégâts. Il aurait pu réussir, cette fois-là du moins, si Marina n'avait pas ri, puis tournicoté son index sur sa tempe dans un geste dont la signification doit être commune à toutes les cultures. Et elle se détourna pour partir. Il la rattrapa brutalement, heurtant la poussette qui faillit se renverser. Puis il la frappa. Elle tomba sur le trottoir fêlé et se couvrit le visage quand il se pencha au-dessus d'elle.
« Non, Lee, non ! Toi pas frapper moi plus !»
Il ne le fit pas. Il la remit brutalement sur ses pieds et la secoua, faisant balloter et tressauter sa tête.
« Vous, là !»
lança une voix éraillée sur ma gauche qui me fit sursauter.
« Oui, vous, jeune homme !»
C'était une femme âgée en robe de chambre de flanelle rose et veste ouatinée, debout sur son porche, appuyée sur un déambulateur. Bien que grisonnant, ses cheveux en l'air m'évoquèrent Elsa Lanchester dans La fiancée de Frankenstein, avec sa permanente à 20 000 volts.
« Cet homme est en train de frapper cette femme !»« Allez-y donc, intervenez !»«
Non, madame, »
ai-je répondu. J'avais la voix mal assurée. J'ai eu envie d'ajouter
« Je ne m'interposerai jamais entre un homme et sa femme. » Mais ça aurait été un mensonge.
La vérité, c'est que je ne voulais rien faire qui puisse perturber le futur.
« Vous êtes un lâche !»
me dit-elle. « Appelez les flics !» ai-je failli rétorquer, mais je me suis retenu juste à temps. Si cette idée ne lui était pas entrée dans la tête et que c'était moi qui l'y mettais, ça aussi pouvait modifier le cours des choses. Les flics ont-ils jamais fait des descentes chez le couple Oswald? Les notes de Hall ne le disaient pas. Tout ce que je savais, c'était qu'Oswald ne serait jamais appréhendé pour violence conjugale. Je suppose qu'en ce temps et en ce lieu, peu d'hommes l'étaient. D'une main, faisant suivre la poussette de l'autre, il la traînait maintenant dans l'allée. La vieille me lança un dernier coup d'œil foudroyant avant de retourner à l'intérieur, cliquetant du déambulateur. Les autres spectateurs faisaient de même. Le spectacle était terminé. De mon salon, j'ai braqué mes jumelles sur la monstruosité de briques rouges situées en oblique par rapport à moi. 2 heures plus tard, alors que j'étais sur le point de laisser tomber ma surveillance, Marina émergea, la petite valise rose dans une main, le bébé enveloppé dans une couverture dans l'autre. Elle avait troqué la jupe incriminée contre un pantalon et 2 chandails, le temps ayant viré au froid. Elle descendit la rue en hâte, regardant à plusieurs reprises par-dessus son épaule, des fois que Lee l'aurait suivi. Lorsque j'eus l'assurance qu'il ne le ferait pas, c'est moi qui lui ai emboîté le pas. Elle marcha jusqu'au Mr. Car Wash, lavage de voiture, à 4 rues de West Davis, et se servit du publiphone qu'il y avait là. Je m'assis à l'arrêt de bus, un journal ouvert devant moi. 20 minutes plus tard, le bon vieux George Bowie arrivait. Elle lui parla avec sérieux et animation. Il la conduisit côté passager de la voiture et lui ouvrit la portière. Elle le gratifia d'un sourire et d'un baiser au coin de la bouche. Je suis sûr qu'il grava l'un et l'autre dans son cœur. Puis il s'installa au volant et ils disparurent. Ce soir-là, il y eut encore une dispute devant la maison d'Elbeth Street. Et encore une fois, la majeure partie du voisinage sortit pour regarder. Me sentant en sécurité dans le nombre, je me joignis à eux. Quelqu'un, très certainement Bowie, avait envoyé George et Jane de Morenchild récupérer le reste des affaires de Marina. Bowie avait probablement estimé que seul était capable d'entrer chez Lee sans avoir à exercer de contraintes physiques sur lui.
« Comptez pas sur moi pour vous donner quoi que ce soit !»
hurla Lee, sans se soucier de ses voisins béats, se repaissant de chacun de ses mots. Les tendons de son cou saillaient. Son visage avait encore une fois viré au rouge écarlate. Comme il devait haïr cette facilité qu'il avait à rougir, comme une fillette surprise à faire passer des petits mots d'amour. Morenchild adopta la stratégie de la raison.
« Réfléchis, mon ami. De cette façon, il te reste encore une chance. Si elle faisait intervenir la police... »
Il haussa les épaules et leva les mains vers le ciel.
« Donnez-moi une heure, alors, » dit Lee.
Il laissa voir ses dents, mais cette expression n'avait rien à voir avec un sourire.
« Ça me laissera le temps de foutre des coups de couteau dans ses robes et de casser un à un tous les jouets que ces gros Richards ont envoyés pour acheter ma fille. »«
Qu'est-ce qui se passe ?»
me demanda un jeune type d'une 20aine d'années en freinant sur son chouine.
« Dispute conjugale, je suppose.
Osmond, il s'appelle, ou un truc comme ça. Sa femme russe l'a quitté.
Oh, il était temps, à mon avis.
Ce mec-là est fou. C'est un coco, vous le saviez ?
Et il me semble l'avoir entendu dire. »
Lee remontait les marches de son perron, la tête en arrière, la colonne vertébrale bien droite. Napoléon se retirant de Moscou. Puis Jane de Morenchild le rappela d'une voix forte.
Arrêtez votre cirque! Espèce de stupide Nick!
Lee se tourna vers elle, les yeux écarquillés, incrédule et blessé. Il dévisagea Morenchild, l'air de dire
« Vous ne pouvez pas contrôler votre femme ?»
Mais Morenchild ne dit rien. Il avait l'air amusé, comme un spectateur blasé assistant à une pièce de théâtre potable. Pas génial, pas du Shakespeare, mais tout à fait acceptable pour passer le temps. Jane.
Si vous aimez votre femme, Lee, pour l'amour du ciel, cessez de vous comporter comme un enfant gâté. Un peu de savoir-vivre.
Lee.
Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça.
Son accent du sud était renforcé par le stress. Jane.
Oh, je l'ai et je le prends. Laissez-nous emporter ces affaires ou j'appelle la police moi-même.
Lee lança Morenchild.
Dis-lui de se taire et de se mêler de ses affaires, George.
Morenchild rit joyeusement.
Aujourd'hui, c'est toi nos affaires, Lee.
Puis il reprit son sérieux.
Je suis en train de perdre mon respect pour toi, camarade. Laisse-nous entrer maintenant. Si tu tiens à mon amitié comme je tiens à la tienne, laisse-nous entrer maintenant.
Les épaules de Lee s'affaissèrent et il s'écarta. Jane monta les marches sans daigner lui accorder un regard. Mais Morenchild s'arrêta pour embrasser Lee, qui était maintenant maigre à faire peur, dans une étreinte puissante. Au bout de quelques secondes, Oswald l'étreignit aussi. Je m'aperçus, avec un mélange de pitié et de dégoût, que le garçon, car c'était vraiment tout ce qu'il était, s'était mis à pleurer.
« Ils sont bizarres, ces deux-là. C'est des tapettes ?»
me demanda le jeune homme en vélo.
« Pour être bizarres, ils sont bizarres, »
je lui ai répondu. « Mais pas dans le sens où vous l'entendez. »